Bon, merci à tous d'être là. C'est la dernière conférence du cycle que nous organisons avec les écoles doctorales sciences humaines. C'est le cycle qui s'intitule « Jalon pour une histoire des sciences de l'homme ». Donc je suis très, très contente et je remercie Éric Fassin d'être là, parce que je vous ai couru après pendant 2 ans et vous êtes enfin chez nous. Vous êtes à Poitiers depuis hier soir. Vous avez aussi eu la gentillesse d'intervenir dans le cadre de cette belle programmation qui s'intitule « Le miroir d'Eros », qui se passe au TAP et dans d'autres lieux de Poitiers. Je vous invite vraiment à y assister. C'est très très belle, très beau programme. Votre thème ce soir sera différent, c'est le genre, outil scientifique, arme politique. Donc je vais vous présenter, monsieur Fassin, vous êtes professeur à Paris 8, département de sciences politiques et centre d'études féminines et d'études de genre, et chercheur au laptop CRESPA. Donc vous êtes un sociologue engagé, vous analysez la politisation des questions sexuelles et raciales en France et aux États-Unis et leurs croisements particuliers en matière d'identité nationale et d'immigration en France et en Europe. Donc vous avez écrit de nombreux ouvrages, vous assistez aussi, vous devez connaître monsieur Fassin, vous l'avez peut-être entendu des émissions comme 28 minutes sur Arte ou aussi sur France Culture et aussi ses papiers dans Libération. Donc vous avez publié l'inversion de la question homosexuelle, de la question sociale à la question raciale, discrimination, pratique, savoir politique, le sexe politique, genre et sexualité au miroir transatlantique, édition de l'école des études en sciences sociales, homme-femme, quelle différence, avec madame Marcon, démocratie précaire, etc. Et aussi vous avez failli venir sur ce sujet, c'était Rome et riverains, donc on serait très très content de vous réentendre sur ce sujet, Rome et riverains, une politique municipale de la race, c'est un collectif. Et puis il vient de paraître aux éditions Gallimard un très très bel ouvrage qui est paru en 1978 et qui s'appelle Herculine Barbin. Sous ce titre-là, à la première parution, c'était Herculine Barbin, dite Alexis Nabé. Il vient de paraître avec une postface d'Éric Fassin et la préface de Michel Foucault. Donc, il est paru ces jours-ci. Voilà. Donc, je n'en dis pas plus. On est très content que vous soyez là. Vous avez une heure d'intervention, une demi-heure de questions et bienvenue à Poitiers, à l'espace Mendès France.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation et de l'insistance. C'est pas que j'étais réticent, comme vous le savez. C'est simplement que parfois... C'est difficile de caler les calendriers. Donc je vais essayer de vous présenter des éléments autour du concept de genre, autour des études de genre, mais aussi autour de la controverse qui entoure aujourd'hui ce que ses adversaires appellent la théorie du genre ou l'idéologie du gender. Je vous laisse peut-être vous installer pour... Alors ce que je commencerai par dire, c'est que la controverse a pour effet deux choses qui vont dans des sens différents. D'un côté, la controverse donc qui s'est déchaînée en France depuis quelques années, mais pas seulement en France, et qui devient un enjeu politique assez important, puisque c'est peut-être la manière dont se recompose une partie du clivage entre la droite et la gauche aujourd'hui en France, d'une part, mais aussi des cohérences entre les extrêmes droites dans plusieurs pays d'Europe. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Mais donc ce qui se passe a pour effet, me semble-t-il, une certaine confusion, c'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien de quoi on parle. C'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est plus positive de mon point de vue, c'est que lorsqu'on travaille dans le champ des études de genre depuis longtemps, on a parfois l'impression qu'on parle de quelque chose qui n'intéresse pas grand monde. Et grâce à ces polémiques, eh bien, d'un seul coup, on a l'impression de parler de quelque chose qui retient l'intérêt de tout le monde. Ça n'est pas toujours le cas quand on travaille sur des sujets qu'on peut appeler minoritaires, c'est-à-dire qui concernent... ce qui est minoré politiquement. Et donc il faut remercier les adversaires de la prétendue théorie du genre pour leur contribution à la légitimation des études de genre. Mais puisque, à côté de ce versant positif, du moins du point de vue de celles et ceux dont je suis qui essaient de convaincre qu'il y a un intérêt à s'intéresser à ces questions. À côté de cet élément positif, il y a un élément plus négatif, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde s'y intéresse, mais que personne ne sait plus ce que ça veut dire. Ce qui donne l'impression que ça doit être extrêmement complexe. Pour ma part, je crois que ça n'est pas si difficile à comprendre et que c'est bien la raison pour laquelle c'est un enjeu politique. C'est un enjeu politique parce que ça parle d'une expérience qui est celle de tout le monde. Tout le monde sait ce que c'est que le genre, même si tout le monde ne connaît pas le mot ou tout le monde n'est pas familier de l'histoire de ce concept, puisque ça a à voir avec la manière dont sont construites nos identités. Je vais commencer par une proposition très simple. Vous savez qu'on a longtemps dit que le genre était quelque chose d'incompréhensible parce que cela nous viendrait de l'étranger et en particulier des États-Unis. D'où, lorsque on veut disqualifier le concept et les études de genre, le fait de formuler les choses en anglais, en disant l'idéologie du gender, par exemple. Si vous dites gender, vous vous doutez bien que ce n'est pas de chez nous et que donc ça n'est pas fait pour s'acclimater dans notre pays si tempéré. En réalité, il me semble qu'il y a là quelque chose de paradoxal. L'idée que le concept de genre serait intraduisible de l'anglais au français est démentie par le fait que le mot « genre » appartient à la langue française et plus exactement, il appartient à l'enseignement scolaire. Tous les enfants qui vont à l'école en France entendent parler de genre en grammaire. Alors vous me direz, la grammaire, ça n'a rien à voir avec la théorie du genre ou l'idéologie du gender ou les études de genre, selon le point de vue qu'on adoptera. Eh bien, si. D'abord, pour des raisons historiques. Un petit livre vient de paraître, écrit par l'historienne Eliane Viennot, qui s'intitule « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ». Comme vous le savez, cette proposition, le masculin l'emporte sur le féminin, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles. Depuis toujours, pourrait-on penser. Ce qu'elle nous rappelle, c'est que cette fausse évidence de la grammaire, elle résulte d'un combat qui a été contesté. C'est à la fin du XIXe siècle, au moment où s'impose l'école républicaine, que cette idée de la grammaire assoit son empire de manière durable. Alors ça, c'est intéressant, puisque dès lors qu'il y a eu polémique sur ces questions, on voit bien que le genre grammatical, ça n'est pas simplement aujourd'hui qu'on peut en faire une sorte de métaphore du genre au sens des études de genre, c'est depuis toujours. La formulation « le masculin l'emporte sur le féminin », eh bien, ça ne parle pas simplement de la grammaire des mots. Ça parle de l'ordre social. Et il en a toujours été ainsi. Donc nous l'avons oublié parce que nous croyons que c'est juste une sorte de jeu de mots qui fait qu'on pourrait parler du genre grammatical d'un côté et qu'on pourrait parler de l'autre du genre des études de genre. Je crois qu'il est important de prendre les choses très littéralement pour ce qu'elles sont. D'ailleurs, si vous lisez l'article fondateur dont je reparlerai très bientôt de l'historienne états-unienne Joan Scott, en 1986, eh bien, elle commence par cette référence grammaticale au genre, avant de parler du genre comme catégorie utile pour l'analyse historique. Mais au-delà de cette vérité historique, je crois qu'il y a aussi un enjeu théorique. C'est quoi le genre en grammaire ? Eh bien, je crois que ça peut se comprendre en partie à la lumière de la linguistique, et par exemple, de ce que Saussure nous explique, c'est-à-dire que le signe est arbitraire. L'arbitraire du signe, c'est le fait que le mot « chat » n'est pas une image de la réalité du chat. Mais ça, c'est vrai aussi pour le genre, puisque le soleil, qui s'oppose à la lune ou qui peut la rencontrer dans notre langue, comme le masculin rencontre le féminin. On sait que le soleil peut avoir rendez-vous avec la lune, paradigme de la rencontre hétérosexuelle. Eh bien, ça ne marche pas de la même manière en allemand, puisque en allemand, le soleil est féminin et la lune est masculine. Donc, cette possibilité de déconnecter le mot de la chose, c'est ce qui nous aide à penser l'arbitraire, c'est-à-dire l'idée que le genre, ça n'est pas un fait de nature. Ça n'est pas quelque chose qui est le simple reflet de la nature des choses. C'est une production sociale, une production socialement construite, socialement organisée. C'est vrai, encore une fois, dans la langue. On sait bien que, par exemple, un fauteuil n'est pas nécessairement plus viril qu'une chaise. même si on peut imaginer qu'on réserve les fauteuils aux hommes et qu'on suggère aux femmes qu'elles seraient mieux venues de s'asseoir sur des chaises ou des banquettes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça voudrait dire que ce sont là des conventions sociales qui nous disent que nous trouvons préférable cette répartition des rôles. Donc il n'y a pas une déconnexion complète entre le genre grammatical et le genre des études de genre. Bien au contraire, il me semble que lorsqu'on est français, ou plus exactement lorsqu'on est scolarisé en France et lorsqu'on pratique la langue française, on sait ce que c'est que le genre. J'en prendrai, avant de terminer ce long préambule, un dernier exemple. Vous évoquiez dans la présentation la publication ou la republication, la réédition très augmentée d'Herculine Barbin, le texte qui avait été exhumé par Michel Foucault en 1978. Herculine Barbin, c'est l'histoire d'une femme qui se révèle être un homme à l'âge de 20 ans. Et cette histoire, elle est racontée à la première personne. Il s'agit donc d'un texte qui s'appelle « Mes souvenirs », qui a été publié dans un contexte médical au XIXe siècle et qui a été republié dans le contexte des recherches de Michel Foucault, de ses réflexions sur le vrai sexe à la fin des années 70. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien dans ce texte, avec la personne qui change de sexe, qu'il s'agit de grammaire aussi. Comment écrit-on ses souvenirs lorsqu'on est né femme et qu'on se révèle homme? Eh bien, c'est un des enjeux dans l'écriture, puisque toute la première partie de ses souvenirs est écrite au féminin et toute la deuxième partie au masculin. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que parce que la narratrice ou le narrateur, Herculine qui deviendra Abel, se définit non pas comme un hermaphrodite, mais comme un pseudo-hermaphrodite, c'est-à-dire comme quelqu'un qui aurait toujours déjà été réellement un homme, même si la médecine, sa famille et lui-même l'ignoraient, eh bien, Herculine Barbin, en évoquant sa vie de femme, utilise le féminin, des accords grammaticaux au féminin, mais en italique, comme pour souligner qu'elle n'adhère pas, ou plutôt qu'il n'adhère pas tout à fait à cette identité qui a été la sienne auparavant. Vous voyez bien, là, on a typographiquement le rappel du fait que le genre s'inscrit dans la langue. Et l'expérience de tous les écoliers et de toutes les écolières en France, c'est que l'accord, c'est-à-dire ne pas faire de faute d'accord, et en particulier en matière de genre, c'est une des contraintes normatives les plus fortes qui pèsent sur toute personne s'exprimant dans la langue française. Il suffit de voir combien c'est difficile, par exemple, pour des anglophones qui essaient de parler correctement, c'est-à-dire en respectant les règles et l'usage, le français. Donc je termine là ce préambule, mais il me semble que loin que lorsqu'on est de culture française ou de culture francophone, on soit mal placé pour comprendre les études de genre, je crois tout au contraire que nous en avons collectivement une expérience constante à travers l'usage de la langue et à travers son enseignement dans la grammaire. Fin d'introduction et de prélude à cette présentation autour du genre. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est parcourir l'histoire du concept de genre pour souligner plusieurs points. Le premier, c'est justement qu'il s'agit d'une histoire, autrement dit qu'un concept ne peut pas être pensé de manière intemporelle. C'est une des difficultés lorsque on entend aujourd'hui utiliser l'expression « la théorie du genre », c'est que ça donne le sentiment qu'il y a une vérité intemporelle, une vérité anhistorique, une vérité essentielle qui serait contenue dans le concept de genre. Or, je voudrais suggérer que le concept de genre est intéressant à penser précisément parce qu'il oblige à penser sa propre historicité. Les concepts n'existent pas en dehors des usages qu'on en fait. C'est vrai pour le genre, mais c'est vrai pour tous les concepts. Donc, au lieu d'essayer de se dire quelle est la vérité indépendamment des usages historiques, il est important de se dire quelle est la vérité historique du concept de genre, c'est-à-dire une vérité qui est reformulée selon les moments. Il y a une image que j'aime bien utiliser parce qu'elle me paraît, si je puis dire, pédagogique, mais surtout parce que je trouve que ça évoque des tableaux que j'aime. Je ne sais pas si vous représentez ces tableaux de Salvador Dali où on voit des montres molles. Eh bien, les montres molles me paraissent signifier le fait qu'on peut avoir des instruments pour mesurer le temps qui eux-mêmes sont traversés par le temps. C'est-à-dire leur mollesse, le fait qu'ils épousent la forme des meubles sur lesquels ils sont posés, enfin, qu'elles épousent, on ne va tout de même pas troubler le genre tout de suite, donc les montres. Donc le fait que les montres épousent le mouvement des meubles, eh bien, ça dit aussi qu'elles sont traversées elles-mêmes par l'histoire, par le temps. Les montres elles-mêmes sont historiques. Ce sont des outils pour mesurer le temps, mais ce sont des outils eux-mêmes traversés par le temps. Il en va de même, je crois, de tous les concepts. Simplement, lorsque on travaille sur le genre, on a intérêt particulièrement à y être attentif, parce que nous raconte le genre ? Eh bien que, puisque ce que nous avons tendance à percevoir comme anhistorique, intemporel, à savoir la différence des sexes, est organisé historiquement, eh bien on a intérêt à penser cette historicité jusque dans le concept lui-même. Donc ça, c'est la première remarque d'épistémologie générale, si vous voulez. Penser l'historicité du concept et pas simplement penser ses usages, mais penser ce que ça veut dire sur le concept lui-même. Il n'a pas une vérité intemporelle, ça veut dire des choses différentes dans des contextes différents. Encore une fois, il ne s'agit pas seulement du genre, mais à partir du genre, on peut penser comment fonctionnent les concepts en général dans leur historicité. Mais d'autre part, les études de genre mettent l'accent, et c'est complémentaire, sur le fait que le savoir est situé. C'est ce qui a été en particulier développé par des épistémologues féministes comme Donna Haraway, qui insistent sur le fait que le savoir ne peut pas être compris indépendamment du point de vue. C'est une autre formule qui est utilisée dans l'épistémologie féministe. Le point de vue, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas une objectivité indépendante des points de vue, mais que l'objectivité scientifique demande de prendre en compte les points de vue. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des points de vue et qu'un point de vue, ça crée non seulement une visibilité, on voit certaines choses, mais ça crée aussi des points aveugles. Lorsqu'on regarde à partir d'un point, on voit certaines choses et il y en a d'autres qu'on ne voit pas. Et donc l'objectivité, ça n'est pas de faire comme si on voyait tout, c'est au contraire de marquer les limites de ce qu'on voit, donc du point de vue qu'on adopte. Il se trouve que les études féministes sont particulièrement attentives à cette question d'épistémologie. Pourquoi ? Parce que ça a à voir avec la domination. Le point de vue, c'est aussi très souvent, si on n'y réfléchit pas, le point de vue des dominants. Dans les rapports de domination, on voit les choses selon le point de vue dominant. Donc, se poser des questions sur le point de vue, c'est se poser des questions sur la domination, sur le savoir comme un rapport de pouvoir. Donc cette épistémologie féministe, elle me paraît utile pour rappeler combien, par exemple, la construction de nos représentations sur la différence des sexes, elle est prise dans les rapports de pouvoir entre les sexes. Il n'y a pas de savoir qui soit en dehors de tout cela. Et c'est le troisième point d'épistémologie que je voulais souligner d'emblée. C'est que, très souvent, dans les sciences sociales en particulier, et peut-être encore plus en sociologie, la discipline par laquelle je suis défini, dira-t-on, eh bien, on insiste sur la neutralité axiologique. Peut-être avez-vous déjà rencontré cette expression curieuse. La neutralité axiologique, c'est une manière de traduire un concept de Max Weber, en allemand c'est la Wertfreiheit, c'est-à-dire c'est libre de valeur. Mais ça a été traduit en français par neutralité axiologique dans un contexte qui a été rappelé par des auteurs comme Isabelle Kalinowski, qui était un contexte de la guerre froide. Et en particulier, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que la neutralité axiologique, c'était en quelque sorte le contraire du marxisme. D'un côté, il y avait une sociologie qui était engagée, qui était une sociologie qui prétendait changer le monde et qui s'inspirait de la référence marxiste. Et de l'autre, on opposait la figure de Max Weber qui aurait défendu la neutralité axiologique. Je ne vais pas me lancer dans un long développement sur ce point, mais il se trouve que ces auteurs qui ont retravaillé à partir de Max Weber, comme Isabelle Kalinowski, l'ont montré, je crois, de manière très convaincante. C'est un contresens complet sur l'épistémologie de Max Weber. Et en particulier parce que Max Weber explique dans un de ses essais sur la théorie de la science, dans une petite histoire qui est tout à fait révélatrice, il dit, on est au début du XXe siècle en Allemagne, il dit, il y a certains qui voulaient interdire à un socialiste d'avoir une chaire de droit. Alors socialiste à l'époque avait un sens beaucoup plus radical qu'aujourd'hui. Beaucoup plus radical. Mais disons que c'était même un terme vraiment à gauche. Mais ce qui se passait au début du XXe siècle, c'est que quand on disait cela, eh bien, Max Weber disait, protestait. Mais il disait, il ne suffit pas de dire le socialiste, après tout, a bien le droit d'avoir une chaire de droit. Parce que certains disaient, les socialistes, oui, mais quand même pas les anarchistes. Parce que les anarchistes ne croient pas au droit. Et Max Weber répondait, non, mais l'anarchiste, à condition qu'il connaisse bien le droit, peut être un prof de droit tout à fait intéressant. Pourquoi ? Parce que le fait qu'il n'y croit pas lui donne un regard sur le droit différent, et ça lui donne une sorte de levier pour voir des choses que les croyants du droit ne percevraient pas. Il ne s'agit pas seulement du droit, bien sûr, mais il s'agit de toutes les disciplines. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il est utile de renverser la perspective souvent adoptée, le reproche qui a été classiquement fait aux études féministes, comme aux études postcoloniales, comme à toutes sortes d'études qui posent des questions minoritaires dans le sens que j'ai déjà évoqué, eh bien, on reproche toujours un manque d'objectivité. Autrement dit, l'objectivité serait uniquement le fait des majoritaires. Seuls les hommes blancs hétérosexuels seraient l'incarnation de l'objectivité. Il y a quelques raisons de penser que cette perspective est scientifiquement fragile. On ne voit pas pourquoi le fait d'être dans une position dominante garantirait la lucidité. Bien entendu, vous me direz, il ne suffit pas d'être dans une position dominée pour être lucide. Mais quand même, comme ce sont souvent les dominants qui ont la parole, il n'est pas inutile du point de vue du savoir de savoir le point de vue des dominés. Donc, la neutralité axiologique, c'est une manière de dire on ne fait pas de politique, mais en réalité, c'est une manière de valider le point de vue dominant, de ne pas vouloir entendre des points de vue critiques, des points de vue qui remettent en cause cette évidence de la norme dominante. Et j'ajoute pour ma part que je trouve significatif que le terme qui a été choisi pour la traduction soit celui de neutralité. Le neutre, c'est justement ce qui échappe au genre. Et je crois que ça n'est pas tout à fait un hasard. Quand on nous demande d'être neutre, eh bien, le paradigme derrière cela, c'est la question du genre, c'est-à-dire nous ne voulons pas savoir si vous êtes des hommes ou des femmes, peu importe, seule la vérité du savoir importe, nous dit-on, autrement dit, faites abstraction de qui vous êtes, autrement dit, soyez des hommes. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, semble-t-il. Au-delà de ces questions d'épistémologie, donc, que j'ai rappelées sur l'historicité, sur le point de vue situé, sur la neutralité axiologique, je voudrais maintenant revenir donc à l'histoire plus précise du concept de genre tel qu'il a été forgé d'abord aux États-Unis. Aux États-Unis, dans les années 1950 d'abord, puis dans les années 1960, deux auteurs en particulier vont définir le concept de genre. Il s'agit de deux auteurs qui sont liés au monde psychomédical, c'est-à-dire qui travaillent à l'hôpital, du côté de la psychologie, pour le premier, John Money, ça s'écrit comme l'argent, ce qui permettra des critiques acerbes, bien entendu. Et deuxièmement, Robert Stoller, STO2LER, qui est un psychanalyste et qui travaillait également en université, le premier en lien étroit avec l'université de Johns Hopkins à Baltimore et le second dans le cadre de l'université de Californie à Los Angeles. Et tous les deux vont forger ce concept de genre. Ils vont le forger pour penser des situations perçues comme anormales, c'est-à-dire en particulier l'hermaphrodisme, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'intersexualité, et de l'autre côté, ce qu'on appelait à l'époque le transsexualisme, que le droit et la psychanalyse continuent souvent d'appeler transsexualisme, qu'on pourrait appeler peut-être plutôt la transsexualité, ou en tout cas les identités trans, voire transgenres. Dans les deux cas, il s'agit de situations médicalisées. C'est-à-dire que la question de la norme est posée d'emblée pour parler du genre. Mais le but, c'est de corriger l'anomalie. Lorsque la psychologie, la médecine se mêlent de parler de genre, dans les années 50 et dans les années 60, c'est pour rétablir l'ordre devant un désordre. Un désordre, c'est le point de vue, en tout cas, bien sûr, des savants qui développent ce concept, un désordre qui peut être biologique, avec l'intersexualité, c'est-à-dire une ambiguïté du sexe à la naissance, qu'elle soit découverte aussitôt ou qu'elle soit révélée plus tardivement, mais d'autre part, avec la transsexualité, une anomalie, encore une fois, ça n'est pas mon point de vue, c'est le point de vue qui est adopté par ces savants dans les années 50 et 60, une anomalie par rapport à l'adéquation supposée entre quoi ? Eh bien, entre le sexe et le genre, c'est-à-dire entre l'anatomie et l'identité de genre, entre le corps qui nous est donné et la manière de se définir. Dans les deux cas, donc, la distinction entre sexe et genre, elle vise à réaccorder les termes, à remettre de l'ordre dans un désordre anatomique ou bien identitaire. Donc c'est une logique de normalisation. Et d'ailleurs, le terme qui est utilisé, c'est celui de clinique du genre. Il y a une clinique du genre mise en place dans ce contexte psychomédical. Ce ne sont donc pas des révolutionnaires. Ils ne prétendent pas remettre en cause l'ordre du monde. Bien au contraire, il s'agit d'enseigner à des personnes à se conformer aux attentes normatives en matière de genre. Par exemple, aux personnes qui voudraient changer de sexe, de vérifier qu'elles ont bien compris quelles étaient les attentes les concernant. Donc, si vous voulez devenir une femme, apprenez à aimer le rose. Ayez des comportements féminins. Apprenez à avoir des gestes féminins. Voilà ce que dit cette psychologie, ce que dit cette psychanalyse, ce que dit cette médecine à l'époque. J'y insiste un petit peu parce que peut-être en avez-vous entendu parler, mais la figure de John Monnet a acquis une notoriété nouvelle dans le débat de grand public, et en particulier parce que les sites catholiques, conservateurs, ont mis en avant l'histoire de John Monnet pour montrer les abominations supposées de la théorie du genre. Les abominations supposées de la supposée théorie du genre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une histoire qui est célèbre, qui est l'histoire de David Reimer. Ça s'écrit R-E-I-M-E-R. David Reimer, c'est quelqu'un qui est né sans anomalie, je simplifie en utilisant ce terme, mais en tout cas sans ambiguïté génitale, mais qui, à la suite d'une intervention chirurgicale dans les premiers mois de sa vie, a eu son pénis très abîmé, et donc s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait ? Question pour les parents, mais question aussi pour la médecine. Qu'est-ce qu'on fait ? Et les parents ont entendu John Monnet, qui défendait ses théories, à la télévision sur la différence entre le sexe et le genre et sur le fait que le genre, au fond, l'emportait sur le sexe, qu'on avait la possibilité de façonner, de réinventer l'identité en partant du genre, en particulier donc pour les personnes qu'on n'appelait pas encore intersexes, pour les personnes hermaphrodites, dont le sexe est ambigu à la naissance. On pouvait, disait-il, corriger très tôt ces anomalies et ainsi, à travers une éducation appropriée, produire des personnes normales, conformes aux attentes normatives. Lorsque John Monnet fait cela, il est dans une logique qui est la logique dominante après la Deuxième Guerre mondiale, selon laquelle, dominante dans le champ scientifique, selon laquelle la culture l'emporte sur la nature. En particulier, ça se comprend dans un contexte de réaction aux théories racistes qui étaient importantes, et pas seulement dans les pays fascistes ou nazis, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, y compris la France, y compris les États-Unis, et qui avaient cours très largement. Donc il y a une sorte de réaction contre cette naturalisation de l'ordre social en insistant sur le caractère construit, culturel, social. C'est pour cela que les gens qui aujourd'hui dénoncent la théorie du genre s'en prennent à John Money comme s'il était emblématique des études de genre actuelles, puisqu'il revendique un point de vue culturel, social, historique, etc. Et que va faire John Money? Eh bien, il va dire « Votre enfant, il va suffire d'en faire une fille. » Autrement dit, si son pénis est abîmé, qu'à cela ne tienne, c'est un petit bébé, il suffit de faire l'ablation du pénis complète, ensuite de l'élever comme une fille, de lui donner, avec certaines interventions chirurgicales, etc., d'en faire véritablement une fille, il n'y aura pas de problème. Et John Money va se servir de cet exemple pour montrer la validité de sa théorie du genre. Il y a des théories du genre, mais il n'y en a pas qu'une. Sa théorie du genre, selon laquelle on peut, en quelque sorte, réassigner une identité de genre. De manière paradoxale, l'exemple de David Reimer, qui est emblématique de la théorie de John Money, ne correspond pas à une personne intersexe, puisque c'est accidentel. Le problème, c'est que ça ne se passera pas très bien et que ce cas qu'il a présenté comme John Jones et qu'il continuera de présenter comme un succès va être démenti par l'avis de David Reimer, qui refusera les opérations, qui refusera les interventions médicales et qui reprendra une vie au masculin, y compris en se mariant, avant de se suicider, comme l'avait fait auparavant, je ne suis pas entré dans tous les détails, son frère jumeau. Et on voit bien ici une de ces histoires exemplaires de la science de l'après-Deuxième Guerre mondiale, où on avait le sentiment que la grande confrontation entre nature et culture, elle pouvait être testée empiriquement à partir des histoires de jumeaux. Donc, séparer des jumeaux, voyez ce que ça donne, et comme ça, vous saurez quelle est la part de la biologie et quelle est la part de la culture. Ça, c'est une sorte d'obsession des années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, l'échec qu'avait tenté de masquer John Money, il va être dévoilé par David Reimer lui-même et par un adversaire de John Money, Milton Diamond, qui insiste sur le fait que ça n'est pas la culture, c'est la biologie. Donc pourquoi est-ce que je prends un peu longuement cet exemple? Je vous l'ai dit, c'est parce qu'il est mobilisé aujourd'hui par des sites d'extrême droite, par des sites catholiques conservateurs, plus récemment par Michel Onfray, qui reprend l'histoire à son compte au prix de quelques approximations d'erreurs de date, etc., parce qu'il découvre tout ça manifestement sur Wikipédia ou sur les sites d'extrême droite, puisqu'il dit qu'il vient de le découvrir, hein, et donc qu'il ne connaît pas cette histoire, qui est très célèbre dans les études de genre. Donc cette histoire circule beaucoup. Est-ce qu'elle dit la vérité des études de genre aujourd'hui? Eh bien, pas du tout. Et précisément, c'est là qu'il me paraît important de faire de l'histoire. Certes, il y a un point de vue culturel. Certes, il y a un point de vue historique. Certes, il y a un point de vue social. Mais la manière de concevoir le genre, elle est en contradiction absolue avec l'usage que va en faire, à partir des années 1970, le féminisme. Le féminisme s'approprie le concept de genre dans les années 70 en référence directe à Robert Stoller, le psychanalyste qui a travaillé sur la transsexualité. Mais ce que fait le féminisme, ça n'est pas du tout la même chose. S'approprier, mais pour retourner la perspective qui était celle de Monet et de Stoller. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus dans une clinique du genre, mais dans une critique du genre. Il ne s'agit plus de corriger des anomalies, mais d'interroger la norme. Ce que fait le féminisme en parlant de genre, ça n'est certainement pas de dire qu'il faudrait que les petits garçons deviennent enfin de vrais petits garçons et que les petites filles deviennent enfin de vraies petites filles. C'est d'interroger la norme qui définit ce que c'est qu'un vrai petit garçon ou qu'une vraie petite fille, qu'une vraie femme ou qu'un vrai homme. C'est la vérité du sexe que permet d'interroger le concept de genre dans son utilisation féministe. Autrement dit, suggérer que John Monnet, parce qu'il a inventé le concept de genre, ferait la même chose que les féministes, c'est négliger précisément la fonction politique du genre. Il y a bien une fonction politique du genre chez John Monnet et Robert Stoller, mais c'est une fonction normative. Il s'agit de conformer les individus à la norme de genre et non pas de remettre en cause la norme de genre. Donc il y a là, me semble-t-il, un faux procès qui, en plus, peut être confirmé par le fait que, lorsque Michel Onfray croit que Judith Butler est l'héritière de John Monnet, c'est qu'il n'a pas lu un texte où Judith Butler, dans « Défaire le genre », reprend toute cette histoire et propose une critique et de John Monnet et de son adversaire Milton Diamond, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse, ça n'est pas l'opposition entre nature et culture, c'est bien plutôt l'assignation, l'idée qu'on va imposer une vérité du sexe, un vrai sexe, pour reprendre le titre de la préface à Herculine Barbin que donne Michel Foucault en 1980. Donc, la première étape dans les études de genre est antérieure aux études de genre. Il y a une préhistoire, c'est une préhistoire médicale, psychologique, psychanalytique, psychiatrique, qui vise à restaurer l'ordre et non pas à le contester. En revanche, lorsqu'on entre dans l'histoire des études de genre, à partir des années 70, il s'agit bien plutôt de critiquer, de contester, d'interroger les normes de genre. Et de ce point de vue, ce qui va se développer en langue anglaise, en particulier à partir des années 1970, et en particulier en anthropologie, se réfère directement, et c'est pour cela aussi qu'il est trompeur d'attribuer seulement aux États-Unis la paternité ou la maternité selon le point de vue qu'on adaptera sur les études de genre. La référence principale pour les études de genre féministes au début des années 1970 aux États-Unis, c'est Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, en particulier, bien sûr, le deuxième sexe, et en particulier cette formule qui est répétée indéfiniment, mais malgré tout, qui garde une clarté qui me paraît toujours utile, on ne naît pas femme, on le devient. On ne naît pas femme, on le devient, c'est à peu près ce que nous raconte le genre. Autrement dit, il y a une socialisation. Ça n'est pas une donnée de nature, c'est une production sociale. Et si on le devient, alors, bien sûr, il y a des reformulations. Je ne développerai pas sur ce point, mais le point de vue de Judith Butler serait plutôt qu'on ne le devient pas, qu'on ne devient jamais tout à fait ce qu'on est censé être, puisqu'on ne peut pas devenir conformément à une nature qui ne préexiste pas à la production sociale. Mais je n'entre pas pour l'instant dans cette considération qui complique un peu les choses, mais retenons tout de même cette idée que l'entreprise de Simone de Beauvoir, qui d'ailleurs s'inspire de Claude Lévi-Strauss, c'est une entreprise proprement anthropologique, pour essayer de voir comment on produit de la culture. Et c'est de la culture, en l'occurrence, de genre, même si Simone de Beauvoir n'utilise pas ce terme. J'insiste sur cette filiation française, non pas par nationalisme, mais précisément pour récuser une lecture nationaliste de l'histoire des études de genre. Il n'y a pas de propriété nationale dans le champ scientifique. Bien sûr, il y a des histoires qui passent par des contextes nationaux. Mais on peut s'approprier les concepts dans des contextes différents. Donc on peut mettre au travail un concept qui a été forgé aux États-Unis, mais qui d'ailleurs a des sources en partie françaises et qui va être réapproprié dans un contexte français, donc qui prendra un sens quelque peu différent de celui qu'on connaît aux États-Unis. Donc voilà pour ce basculement de la préhistoire à l'histoire. Après, lorsqu'on considère l'histoire des études de genre, non plus leur préhistoire, mais leur histoire, on s'aperçoit que le genre, eh bien, ça parle de choses très différentes. En particulier dans les années 70, parce qu'on est parti de la question anthropologique, l'interrogation fondamentale qui est posée par des jeunes anthropologues féministes aux États-Unis, disons au milieu des années 70, en particulier dans deux gros ouvrages collectifs, l'interrogation principale, c'est d'essayer de comprendre l'universalité de ce qu'on pourrait appeler, et qu'on n'appelait pas en anglais, mais la domination masculine. Comment comprendre cette réalité? Et là, c'est une question anthropologique classique, c'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de se dire dans telle culture ou dans telle culture, ça ce serait une démarche ethnologique, mais une démarche proprement anthropologique, c'est de s'intéresser au fait qu'on peut retrouver des logiques communes, et en l'occurrence des logiques de domination, et de domination fondée sur le genre, dans des cultures différentes. Les réponses qui vont être apportées seront différentes, et en particulier, une des figures théoriques importantes, ce sera l'anthropologue Gail Rubin, dans un texte traduit en français et repris dans le volume qui s'intitule « Joliment surveiller et jouir », un texte qui s'appelle « Le trafic des femmes ». Mais je ne veux pas entrer dans le détail, mais vous voyez que la question fondamentale, c'est comment on produit de la culture, autrement dit, comment on n'est pas simplement en train de produire des cultures, mais de la culture, comment on passe de la nature à la culture, c'est-à-dire la question qui précisément était au cœur des travaux de Claude Lévi-Strauss. C'est le chapitre inaugural des structures élémentaires de la parenté en 1949, dont s'inspire au même moment Simone de Beauvoir, dont s'inspire en partie Simone de Beauvoir. Ça, c'est une première manière de définir le genre, c'est celle qu'on entend toujours évoquer aujourd'hui. Il me semble que toutes les discussions qui ont lieu en France et au-delà dans l'espace public portent sur cette première version du genre, c'est-à-dire quelle est la part de la nature, quelle est la part de la culture, est-ce qu'on peut opposer l'une à l'autre, etc. L'opposition entre biologie et société, c'est cela qui organise le débat. Si vous prenez par exemple un des slogans de la Manif pour tous, qui était « pas d'ovule dans les testicules », vous voyez bien que cette proposition théorique pourtant alléchante, elle visait à dire que la question, c'était celle des rapports entre nature et culture, entre biologie et société. Une autre formule également plaisante, dans un genre différent si je puis dire, c'est « on veut du sexe, pas du genre ». Qui montrait une sorte de grande ouverture, bien sûr, des conservateurs qui défilaient, et qui nous permet de passer à une deuxième définition du genre qui va jouer un rôle très important à partir des années 1980 aux États-Unis, disons à partir de la fin des années 70 et surtout dans les années 80, où l'enjeu ne sera plus de départager ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui est de l'ordre de la culture, mais bien plutôt de s'interroger sur les rapports entre genre et sexualité. Pourquoi ? Parce que, par exemple, la juriste Catherine MacKinnon va jouer un rôle très important dans l'histoire, non seulement du féminisme aux États-Unis, mais du droit, puisqu'elle va contribuer de manière décisive à introduire dans le vocabulaire juridique et jusque devant la Cour suprême des États-Unis la définition qu'elle propose du harcèlement sexuel. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement sexuel ? selon Catherine MacKinnon, ça n'est pas simplement une affaire de sexualité, c'est pas simplement d'imposer des attentions sexuelles non désirées, pour reprendre une formulation proche de l'expression juridique états-unienne, mais genre et sexualité, ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de la sexualité, mais du fait que la sexualité est l'instrument d'une domination de genre. Autrement dit, à quoi ça sert de harceler sexuellement une femme? C'est pas simplement à exprimer son désir pour elle, c'est à lui dire « tu n'es qu'une femme ». Par exemple, dans la double définition qu'elle donne du harcèlement sexuel, il y a bien sûr la formule peut-être la plus classique, celle du chantage. En anglais, c'est l'expression latine qui est utilisée, quid pro quo, donc un échange, donc des faveurs contre une promotion. Ça, c'est le rapport de pouvoir à l'état pur. Mais ça, c'est dans un rapport hiérarchique. Ça veut dire on peut, lorsqu'on est dans une position supérieure, imposer à quelqu'un qui est dans une position subalterne ce rapport de pouvoir. Mais elle ajoute une deuxième définition du harcèlement sexuel, qui est l'environnement hostile. C'est quoi l'environnement hostile? C'est le fait qu'on n'a pas besoin d'être dans une situation hiérarchique pour avoir harcèlement sexuel. Par exemple, une femme qui serait recrutée dans une caserne de pompiers où elle serait la seule femme et qui arriverait et qui verrait que partout, il y a des calendriers pornographiques. Eh bien, on pourrait se dire « Oh, c'est juste une affaire de sexualité. Après tout, il faut bien s'amuser. » Mais on pourra aussi dire que ça a peut-être à voir avec le genre, c'est-à-dire à une manière de la mettre mal à l'aise en lui rappelant que tous les autres sont des hommes, qu'elle est une femme et que peut-être elle n'a pas tout à fait sa place dans ce contexte. Alors il y a une part d'appréciation ensuite, bien sûr, par les juges. Mais en tout cas, c'est ça l'idée théorique, c'est que l'environnement hostile, il peut servir à ça. Et de manière plus générale, ce que dit Catherine MacKinnon sur le harcèlement sexuel, c'est que c'est intéressant pas simplement parce que c'est désagréable pour la personne. C'est important parce que ça contribue à une hiérarchie dans le monde du travail qui fait que les femmes soit peuvent être exclues de certaines professions, soit reléguées à des positions précisément subalternes. Donc c'est un instrument de la domination. La sexualité est ainsi l'instrument du genre. Donc tout un pan du féminisme va se construire autour de cette question qui est celle des rapports entre genre et sexualité. Est-ce que finalement, la sexualité ne serait que l'émanation, l'expression du genre, c'est-à-dire des rapports de domination? Le féminisme va se déchirer autour de ces questions aux États-Unis dans les années 1980. La même Gayle Rubin que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, va s'opposer à cette définition en disant « il y a d'un côté le genre, de l'autre la sexualité, il ne faut pas les confondre ». Mais en tout cas, vous voyez bien qu'il y a là un champ d'étude qui n'est plus défini à ce moment-là et dans ces travaux par la question du rapport entre nature et culture, entre biologie et société, mais par la question des rapports entre genre et sexualité. Donc, le concept a une histoire, il bouge. Troisième usage qui me paraît important dans les études de genre, c'est celui qui est proposé au milieu des années 1980, je le disais tout à l'heure, par l'historienne Joan Scott, historienne états-unienne, qui est d'abord une historienne de la France et qui a publié beaucoup d'ouvrages sur la France. Que dit Joan Scott? Elle dit, de manière à mon sens décisive, qu'on peut proposer une définition double du genre. D'un côté, le genre, c'est ce qui organise les différences perçues entre les sexes. En insistant sur le terme perçu. La question n'est pas simplement de savoir ce qu'il en est en vérité, c'est-à-dire la vérité étant la biologie du sexe, mais ce qu'il en est des différences perçues. Ça, c'est la première définition. C'est la définition qui, je crois, se rapproche assez de ce que je vous disais tout à l'heure au début, en disant qu'un fauteuil n'est pas une chaise, mais que pour autant, le fauteuil n'est pas nécessairement un garçon et la chaise n'est pas nécessairement une fille. Ça, c'est la construction sociale des différences perçues entre les sexes. Mais il y a une deuxième partie de la définition qui me paraît très novatrice et qui, je crois, est toujours très utile aujourd'hui. Elle dit Le genre, c'est une manière privilégiée de signifier les rapports de pouvoir. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que le genre, ça ne parle pas seulement du genre. Le genre, ça ne parle pas seulement des hommes et des femmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner des exemples. Ça parle aussi de sexualité, on vient de le voir. Donc, par exemple, la question de savoir si, dans un couple de même sexe, joue, ou bien pour des personnes homosexuelles, si joue la question du genre ou pas. Est-ce que la question de la masculinité ou de la féminité joue ou pas? Ça a été étudié, par exemple, par l'historien George Chauncey dans son livre « Gay New York » en montrant combien, au début du XXe siècle, la question décisive pour penser l'homosexualité n'était pas de savoir si des hommes couchaient avec des hommes, mais s'ils se comportaient en hommes ou pas. Autrement dit, la question essentielle était celle du genre. C'était moins les pratiques sexuelles, le fait de coucher avec un autre homme, que le genre, c'est-à-dire le fait de se comporter en homme, l'identité de genre et non pas la sexualité, qui définissait le partage entre l'hétérosexualité et l'homosexualité. Donc, cette manière de penser nous dit « le genre, ça ne parle pas que de genre, ça parle aussi de sexualité ». Mais on peut étendre. Donc, par exemple, les rapports entre les classes. Eh bien, les rapports entre les classes, ce sont aussi des rapports qui peuvent être pensés en termes de genre. On voit bien que, par exemple, au XIXe siècle, les rapports entre la bourgeoisie et le prolétariat sont largement pensés au prisme du genre. C'est-à-dire, par exemple, le fait que la bourgeoisie va considérer que les femmes des classes populaires ne sont pas assez féminines. Et à l'inverse, par exemple, le fait que dans les classes populaires, on pourra penser que les hommes des classes bourgeoises ne sont pas assez masculins. Et vous voyez bien, j'ai dit le XIXe siècle par politesse, mais vous n'ignorez pas que ces questions se posent encore aujourd'hui. Dans les rapports entre les classes, on parle très souvent au prisme du genre. Regardez tous les débats des années 2000 autour de l'islam, autour des banlieues, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit à chaque fois? Il y a une interrogation sur le fait de savoir si les femmes des banlieues sont véritablement féminines. Alors, toutes ces discussions pour savoir est-ce qu'elles s'habillent de manière féminine ou à l'inverse, est-ce que les hommes seraient trop virils dans les banlieues, ce serait le virilisme, etc., etc. Vous voyez bien, toutes ces questions, elles reviennent tout le temps. C'est une manière de penser les rapports entre les classes, mais qui fonctionne bien sûr aussi dans l'autre sens. N'oublions jamais que les classes populaires ont aussi leurs idées sur la bourgeoisie et qui ne sont pas toujours entièrement positives. Donc, on voit bien que le genre, ça signifie beaucoup d'autres choses qui sont ici de l'ordre de la classe, qui peuvent être aussi de l'ordre de la race. On le voit bien aux États-Unis, par exemple, la question noire a beaucoup été pensée au prisme du genre, c'est-à-dire l'inquiétude sur l'hyperféminité ou l'hypoféminité, sur l'hypermasculinité ou l'hypomasculinité, etc. En fait, peu importe. Quand on dit trop ou pas assez, c'est la même chose. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas normal. Autrement dit, ça veut dire que c'est pas comme nous. Donc le genre, il dit quoi? Il dit la manière d'être normal, c'est d'être comme moi. Et donc, si vous êtes plus ou moins que moi, masculin, féminin, ce que vous voudrez, eh bien, c'est que vous n'êtes pas tout à fait normal, puisque je suis la norme. Donc le genre, c'est une question de norme qui peut signifier beaucoup d'autres normes, des normes sur la place sociale, etc. Je prendrai encore un exemple pour montrer les implications de cette définition, de cette redéfinition du genre, en mettant l'accent sur le fait que le genre est une manière privilégiée de signifier les rapports de pouvoir, autrement dit, que ça ne parle pas seulement de la différence entre les sexes, mais que ça parle de toutes sortes d'autres choses. Je prendrai un exemple qui est dans les relations internationales, qui m'a toujours beaucoup plu. Au moment où les États-Unis allaient s'engager dans la guerre en Irak, comme vous vous en souvenez peut-être, un certain nombre de pays, dont la France, se montraient réticents, voire hostiles à cette intervention militaire. Et un intellectuel néoconservateur états-unien avait publié un texte qui a d'ailleurs été repris en extrait en première page du Monde, un texte qui disait « Les Américains sont de Mars, les Européens sont de Vénus ». Ce qui, évidemment, faisait écho à toute une psychologie populaire qui s'est développée dans les années 1990, qui dit que les hommes sont de Mars et que les femmes sont de Vénus. Autrement dit, les Américains sont aux Européens ce que Mars est à Vénus et ce que les hommes sont aux femmes. Autrement dit, c'est des vrais mecs, et les Européens, franchement, c'est un peu des gonzesses, surtout les Français. Et j'insiste sur le « surtout les Français » qui sont réputés particulièrement efféminés. Bien entendu, aucun d'entre nous ne le pense, mais je voulais quand même vous signaler ce fait culturel. Donc ce qui me paraît intéressant, au-delà de la véracité contestable de cette proposition, ce qui me paraît intéressant, c'est l'idée qu'on peut parler de choses comme les relations internationales en utilisant le langage du genre. Et je crois qu'il est important d'avoir ça en tête pour penser pourquoi les questions de genre ont un tel retentissement. C'est parce qu'elles parlent toujours d'autre chose en même temps. Ce qui est en train de se passer dans toutes les querelles qui ont lieu en ce moment autour de la supposée théorie du genre ou de la prétendue idéologie du gender, eh bien, c'est que ça permet de parler des rapports entre les classes, des rapports entre la droite et la gauche, de parler, etc., etc. Donc, ça ne parle jamais seulement de ce dont ça parle ostensiblement. Il y a une quatrième redéfinition du genre dans les pratiques des études de genre qui me paraît pertinente pour boucler la boucle. C'est celle qui s'est jouée du côté des sciences, c'est-à-dire non plus du côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'anthropologie, du droit, de l'histoire, de la sociologie, etc., c'est-à-dire moins du côté des sciences humaines, mais davantage du côté des sciences du vivant. Alors, pas seulement du côté des biologistes, mais aussi de ceux qui s'intéressent à nouveau, en des termes renouvelés, à la question de la biologie. Par exemple, en 1990, est publié aux États-Unis un livre qui s'appelle « La fabrique du sexe », enfin, qui a été traduit ensuite en français 2 ans plus tard par Thomas Laqueur. Et « La fabrique du sexe », c'est un livre qui montre que l'anatomie a une histoire. Alors, vous me direz, l'anatomie, normalement, c'est du solide, ça ne bouge pas tous les jours. Mais là, c'est l'anatomie comme savoir. Autrement dit, la manière dont on voit la différence des sexes, y compris dans l'anatomie, elle a changé. L'argument de l'auteur, qui a été énormément discuté, parfois contesté, et donc je n'entre pas dans la question proprement historiographique là-dessus, mais je vous dis rapidement l'argument. L'argument, c'est que jusqu'au XVIIIe siècle, l'anatomie était pensée, dit-il, depuis les Grecs, sur un modèle à un sexe. Bien sûr, les gens savaient qu'il y avait deux sexes, mais ils considéraient que s'il y a des hommes et des femmes, c'était à partir d'un même matériau anatomique, que c'était une différence de degré, et qu'en particulier, c'était un peu la différence comme ce qui est rentré et ce qui est sorti. Et donc, on pouvait se représenter que c'était la même chose. Et d'où la possibilité, qui a été relatée par certains auteurs aussi sérieux que Montaigne, si une femme venait à enjamber un feu, eh bien, comme la température pouvait transformer le sexe, eh bien, elle risquait de se transformer en homme avec les organes génitaux masculins qui descendaient avec ce changement de température. Nous ne sommes plus entièrement convaincus aujourd'hui par cette version des choses, mais en même temps, je vous recommande d'éviter d'enjamber les feux, indépendamment des études de genre. Mais en tout cas, vous voyez bien que c'est une conception qui supposait que c'est le même matériau corporel, simplement, qui peut être rentré ou sorti sous l'effet, en particulier, de la température. Et vous reconnaissez des conceptions qui nous viennent d'Aristote et autres Grecs. Mais, dit-il, au XVIIIe siècle, ça bascule avec la conception d'un monde à deux sexes. Deux sexes, c'est-à-dire qu'il y aurait une différence de nature dans l'anatomie entre les hommes et les femmes. Autrement dit, que le clitoris et le pénis, c'est pas pareil. Etc. Que c'est pas simplement la même chose, rentrée, sortie, etc., ou plus ou moins, ou etc. C'est pas la même chose. Donc l'anatomie va désormais être construite sur l'idée que c'est vraiment pas pareil les hommes et les femmes, qu'il y a une vraie différence de nature entre les hommes et les femmes et que c'est vraiment marqué dans l'anatomie. On peut discuter, encore une fois, je n'entre pas dans... La thèse peut être complexifiée, etc. L'auteur lui-même, Thomas Laqueur, propose pour le XXe siècle, en fait, l'idée qu'on serait un peu sur les deux modèles à la fois. Je crois qu'il est important, en tout cas, de voir que ce qui est proposé là, c'est l'idée que l'anatomie, c'est-à-dire la manière même dont on voit l'anatomie, la manière même dont on la dessine, la manière dont on la représente, elle va être transformée par une représentation qu'on peut avoir de la différence des sexes. Donc le corps a une histoire. Alors, il y a des tas de prolongements à cela. J'en prendrai un exemple en particulier d'un ouvrage qui a été également traduit en français, mais beaucoup plus récemment, un livre de 2000 de la biologiste Anne Fausto-Sterling. Ça s'écrit F-A-U-S-T-O, trait d'union Sterling, S-T-E-R-L-I-N-G. Un ouvrage qui a été traduit en français sous le titre « Corps en tout genre », publié en 2012. Et je vous invite à lire cet ouvrage, ou si vous avez la flemme parce qu'il est un peu long, vous pouvez regarder aussi un petit livre qui a été publié chez Payot qui s'appelle « Les cinq sexes », ce qui déjà fait plus rêver peut-être que « Corps en tout genre ». Ce que propose cette biologiste féministe, c'est de s'interroger sur la différence des sexes à l'intérieur même de la biologie. Au lieu de se dire qu'il est évident que c'est un fait biologique établi, une vérité intangible selon laquelle il y aurait deux sexes, elle avait déjà proposé dans un article de 1993 donc l'idée qu'il y a cinq sexes. Ça veut dire quoi, il y a cinq sexes ? Mais elle disait, il y a les hommes, il y a les femmes, mais il y a aussi les hermaphrodites. Mais en fait, il y a aussi des pseudo-hermaphrodites qui sont plutôt hommes et il y a des pseudo-hermaphrodites qui sont plutôt femmes. Et donc, ça fait cinq catégories. Cette proposition avait inquiété jusqu'au Vatican. Puisque, vous voyez bien, s'il y a cinq sexes, ça veut dire qu'il y en avait deux, il y en a cinq. Après tout, demain, il pourrait y en avoir sept ou 23. Et c'est précisément le sens de la proposition d'Anne Fausto-Sterling. Non pas qu'en vérité, il y a cinq sexes, ni 23, ni 46, ni 652, mais c'est plutôt qu'on choisit de représenter la question du sexe à travers une opposition binaire, mais qu'après tout, on pourrait choisir une autre manière de dire les choses. Et que puisqu'il y a, par exemple, des hermaphrodites, ça veut bien dire qu'il y a des cas qui n'entrent pas bien dans ces catégories. Et si ça n'entre pas dans ces catégories, eh bien ça veut dire qu'il y a un choix social qui est de dire « tant pis pour les exceptions, je vais m'intéresser seulement au cas le plus fréquent, où les différents... définition du sexe se superpose, la définition chromosomique, la définition gonadique et la définition phénotypique. Trois définitions du sexe qui ne collent pas toujours. Mais on peut se dire, oh, statistiquement, à la louche, ça va. Ben, quand on se dit ça, est-ce qu'on va en conclure que c'est une classification commode, mais qu'après tout, on aurait pu en avoir une autre ? Ou bien est-ce qu'on va en conclure que c'est la vérité ultime des choses ? Est-ce qu'on va se dire qu'il y a des anormaux ? Puisque la vérité de la norme, c'est qu'il y a deux sexes, ou bien est-ce qu'on va se dire, en général, c'est comme ça que ça se passe, mais pas pour tout le monde. Et on peut trouver ça mal commode ou pas, mais en tout cas, on n'est pas obligé de pathologiser. Et vous voyez bien, la question de la norme, c'est ça qu'elle amène à envisager. C'est est-ce qu'il est pathologique d'avoir certains traits, y compris biologiques, qui ne correspondent pas à la définition statistiquement normale du sexe. Alors on peut ne pas être d'accord et trouver que ça n'est pas intéressant, mais en tout cas c'est une question scientifique importante, c'est de savoir est-ce que les catégories qu'on utilise pour décrire le monde sont des vérités absolues, c'est-à-dire est-ce que les catégories ont un fondement naturel, ou bien, et il me semble que c'est beaucoup plus conforme à l'épistémologie des sciences, est-ce que les catégories, elles, sont une manière de décrire le monde qui ne vaut que autant qu'elles permettent de décrire la réalité du monde ? Et que si, après tout, on voulait dire qu'il y a un continuum, par exemple, c'était la proposition qu'elle faisait à l'époque, c'est peut-être une manière de dire que c'est un continuum où la distribution est particulièrement resserrée autour de deux pôles, admettons. Mais vous voyez, c'est une autre manière de se représenter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait aucune différence, mais ça veut dire que c'est une distribution statistique à ce moment-là et non plus une vérité du sexe. Et vous voyez, là, on revient à la question du sexe, mais non plus pour opposer la nature à la culture. En fait, pour montrer que la biologie elle-même est déjà une opération sociale. Et je crois qu'il y a, de ce point de vue-là, un élément important. Vous vous rappelez le point de départ de l'opposition entre sexe et genre. Pardon, je surveille la montre, non pas que je m'ennuie avec vous, mais que je crains d'abuser de votre patience. L'opposition entre sexe et genre, vous vous rappelez, c'était l'idée, il y a la biologie d'un côté et il y a la culture de l'autre. Là, c'est pas ça. En fait, la biologie est culturelle de part en part. Non pas qu'il n'y ait plus de biologie, les corps existent, bien sûr, mais il n'y a pas d'un côté la biologie et de l'autre la culture. Ce que dit Anne Fossow-Sterling, c'est que la biologie est 100% culturelle et 100% naturelle à la fois. C'est bien entendu un matériau biologique. Mais ce matériau biologique, on ne peut pas le penser indépendamment de la manière dont il est appréhendé socialement. Donc vous voyez, ça reprend la question initiale qui était posée au début des années 1970, voire dans les années 1950, mais dans des termes différents, puisqu'il ne s'agit plus d'opposer les deux termes, mais de les confondre. Et de ce point de vue, pour ma part, je voudrais souligner combien il peut y avoir un malentendu sur la catégorie de sexe. Si on se dit le sexe, c'est la biologie, et le genre, c'est la culture, eh bien, il me semble qu'on passe à côté d'un élément très important. C'est que le sexe, c'est d'abord une catégorie d'État. C'est l'État, avec l'État civil, qui définit le sexe, y compris qui définit les conditions dans lesquelles on peut changer de sexe. Les règles pour changer de sexe ne sont pas les mêmes dans toutes les sociétés. Par exemple, aujourd'hui, dans la société française, pour changer de sexe, il faut, premièrement, un suivi psychiatrique long, deuxièmement, une intervention chirurgicale et une prise d'hormones, et troisièmement, c'est lié, mais c'est une conséquence qu'il me paraît important de souligner, une stérilisation. Lorsque vous voyez qu'en Espagne, par exemple, ces conditions ne sont pas requises, c'est-à-dire que l'identité de genre, eh bien, peut suffire à changer de sexe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Autrement dit, que le sexe, c'est pas la même chose en France et en Espagne. C'est quand même bien que ça n'est pas simplement un fait biologique. C'est bien que c'est une catégorie d'État. Donc on peut imaginer que demain, l'État change les règles qui définissent l'identité de sexe et l'État civil, la possibilité de changer de sexe. Par exemple, on pourrait espérer qu'un jour, l'État considère qu'il n'est peut-être pas nécessaire de stériliser les gens. Ce qui est quand même une contrainte assez lourde et que d'ordinaire nous considérons comme plutôt barbare. Et donc on peut s'étonner que ce soit accepté sans qu'on se pose beaucoup de questions là-dessus. Mais voyez, ça me paraît utile de ne pas prendre pour argent comptant qu'il y aurait d'un côté la biologie et de l'autre la société. Le sexe, c'est une catégorie d'État. Bien sûr, ça a à voir avec la biologie. Mais quand même, c'est l'État qui va faire qu'on va avoir des petites croix. Par exemple, il y a aujourd'hui des pays qui ont ajouté une troisième case, comme l'Australie. Eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut être homme, femme ou X. Ça n'est pas la même chose que ce qui se passe en Allemagne depuis quelque temps, c'est-à-dire la possibilité de réserver en quelque sorte la catégorie de sexe jusqu'à ce que la décision ait été prise en quelque sorte en cas d'ambiguïté génitale à la naissance. Ce n'est pas la même chose. Là, c'est la possibilité de revendiquer une troisième case. Pas simplement en attendant d'avoir déterminé, mais comme une identité de sexe. Et vous voyez donc, il n'y a pas d'un côté le genre qui serait social et de l'autre le sexe qui serait biologique. Il y a d'abord le fait que le sexe est une catégorie politique, une catégorie d'État. Je crois que c'est important de le rappeler dans le contexte actuel, puisque qu'est-ce qui se passe ? Et je vais peut-être conclure pour qu'on ait le temps de discuter, et pardon d'avoir été long. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez vu donc toutes ces controverses qui ont commencé en particulier dans le prolongement des débats sur le Pax avec la perspective du mariage pour tous, mais qui se sont déplacés sur la prétendue, je l'ai déjà dit, théorie du genre. Avec des épisodes comme en 2010, une première escarmouche contre le petit film « Le baiser de la lune » qui devait être montré dans les écoles et on voyait deux poissons Félix et Léon, qui, à un moment, s'embrassaient. Vous imaginez la consternation générale, l'idée que des poissons s'embrassent sous l'eau. Ce qui paraît, du point de vue même de la respiration, très problématique, a choqué, et donc ce film qui devait être montré dans des écoles a été déprogrammé. Mais en 2011, de manière beaucoup plus importante, il y a eu toute la mobilisation autour des manuels de SVT, de sciences de la vie et de la terre, que les députés de la droite populaire qui l'attaquaient nommaient « Science et vie de la terre », en confondant avec le titre d'un magazine, ce qui prouvait que leur culture scientifique était récente. Donc un certain nombre de figures d'abord catholiques autour de Christine Boutin, puis la droite populaire, se sont mobilisées contre la théorie du genre qui serait enseignée à nos chers bambins. Et donc ça a été un élément très important. Il y a eu ensuite, bien sûr, la bataille autour du mariage pour tous. Il y a eu plus récemment la controverse autour du fait de montrer un autre film, Tomboy, qui a été montré hier dans le cadre de Miroir d'Eros. Donc le refus de montrer ce film parce qu'il s'agit d'une petite fille qui arrive le temps d'un été à se faire passer pour un petit garçon. Et enfin, plus récemment, la journée de retrait de l'école lancée par Farida Abelghoul, qui propose aussi une année de la jupe et qui considère qu'il faut protéger nos enfants contre des enseignements multiples tels que celui de la masturbation. Alors que je dois dire que c'est un sujet très peu travaillé dans les études de genre. Néanmoins, il y a un excellent ouvrage sur le sujet de Thomas Lacker, mais qui ne donne aucun conseil technique. C'est plutôt une perspective historique. Donc, les études de genre parlent très peu, me semble-t-il, de masturbation. C'est donc une piste à retenir et pour laquelle il faut remercier de nouveau les adversaires de la théorie du genre. Donc, toutes ces offensives, elles sont fondées sur une inquiétude revendiquée, proclamée, selon laquelle on serait en train de toucher à la nature du sexe. En nous parlant de genre, on serait en train de dénaturer le sexe. Ce qui est intéressant, c'est que ça passe par la loi. C'est-à-dire que tout se passe comme si, pour les conservateurs qui protestent aujourd'hui, le sexe avait besoin d'être institué socialement, comme si la nature ne pouvait fonctionner que si elle était validée par l'État. C'est le paradoxe de l'offensive actuelle qui montre bien qu'on parle de la même chose. C'est-à-dire que, effectivement, les conservateurs qui protestent en disant pas d'ovules dans les testicules ou on veut du sexe, pas du genre, ont très bien compris que le sexe est une catégorie d'État. Ils ont très bien compris que l'État peut changer la définition de la différence des sexes. Par exemple, en disant qu'effectivement, ça n'est pas une condition requise pour le mariage, ou pour l'adoption, ou peut-être demain pour la PMA. Donc, il n'y a pas de malentendu là-dessus, on parle bien de la même chose. Mais vous voyez qu'il ne s'agit pas de biologie, parce que s'il s'agissait de biologie, il n'y a pas besoin que l'État s'en mêle. Si l'hétérosexualité était simplement une institution naturelle, ce qui est un peu une alliance de termes, eh bien, on n'aurait pas besoin que l'État s'en mêle. Si l'État s'en mêle, c'est bien que nous considérons que ça n'est pas simplement un fait de nature. L'État s'en mêle pour instituer, c'est-à-dire pour donner le poids de la norme. Donc, de fait, il n'y a pas d'un côté des gens qui croient que le sexe, enfin qui croit au sexe et d'autres qui croient au genre. Le sexe existe pour tout le monde, même pour les gens qui font des études de genre, qui sont d'accord, me semble-t-il, sur le fond avec ceux qui protestent sur le fait que c'est une catégorie politique. Et le genre existe aussi pour les conservateurs, et pas simplement pour ceux qui sont dans le champ des études de genre, puisque... Voyez par exemple une autre pancarte qui a été brandie par les manifestants lors des récentes manifestations, c'est « pas touche à nos stéréotypes de genre ». Ça veut bien dire qu'il y a la revendication qu'il y a des stéréotypes de genre et qu'il faut les maintenir. Et par exemple, regardez l'usage du bleu et du rose sur toutes ces pancartes. C'est donc qu'il n'y a pas d'un côté des gens qui croient qu'il y a des stéréotypes de genre et d'autres qui n'y croient pas. C'est que tout le monde le sait bien, simplement il y a ceux qui disent « je souhaite je souhaite contester les stéréotypes de genre actuels. Et il y a ceux qui disent je souhaite valider, je souhaite refonder, je souhaite restaurer les stéréotypes de genre les plus classiques. Donc ça n'est pas un combat entre les partisans du sexe et les partisans du genre, c'est un combat qui divise au sein d'une conception partagée selon laquelle le sexe est politique et le genre traverse le sexe, simplement entre deux visions politiques différentes. Je m'arrête ici en vous priant d'excuser la longueur de l'intervention.
Merci, Monsieur Fassin, c'était passionnant. Merci beaucoup. Des questions ?
En fait, deux questions, une toute petite par rapport à votre introduction sur le fait qu'expliquer ce qu'est le genre est très simple dans la mesure où effectivement on en parle depuis l'école. Et si là où il n'y a pas quelque chose qui serait compliqué, c'est à quel moment on parle du genre quand on parle de la nature des mots. Donc effectivement, est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose qui l'ancre même dans la manière dont on le présente, de rattacher le genre à la nature, jusque dans la grammaire même, en tout cas dans la manière dont on l'enseigne. L'autre question par rapport à l'ensemble de votre exposé, la manière dont vous représentez cette historique et la dimension politique que prend le genre, ça m'a fait penser dans les débats, la tournure des débats actuels, à l'opposition qu'il y a eu peut-être une dizaine d'années, même qui, si elle existe toujours, elle est moins médiatique, entre les créationnistes et les évolutionnistes, comme s'il y avait une théorie de l'évolution et une théorie de la création. Et dans un cas comme dans l'autre, de sous-jacent, il y a quand même une vision, alors je dirais pas religieuse, mais théologique. Et si finalement il n'y a pas une opposition entre une politique qui serait une théologie politique, qui finit par s'ignorer elle-même dans des contextes de laïcité qui sont revendiqués hein, par les tenants de la droite aussi qui se portent, mais qui finalement préserve quoi cette opposition entre l'homme et la femme, c'est la Genèse. C'est vraiment, dès le début, sur la création du monde, on va avoir homme et femme, il les fit. On retrouve ça après, au moment de Noé, où il faut bien préserver deux spécimens de chaque espèce, un mâle et une femelle. Et ça, ça va vraiment construire la pensée judéo-chrétienne, jusque dans la représentation du mariage concordataire et puis républicain pour le cas typique de la France. Et finalement, la grande subversivité des études de genre, c'est d'aller jusqu'... Enfin, comme finalement a été les théories de l'évolution, l'approche darwiniste et puis toutes les théories de l'évolution depuis, c'est d'envisager que finalement, cette conception du monde qui avait le mérite d'exister et qui fondait la construction du corps politique en soi-même est contestable et que ça, finalement, c'est aussi inadmissible dans la philosophie politique.
Sur le premier point, je répondrai plus brièvement et plus longuement sur le second. Sur le premier point, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la nature des mots n'est pas une nature biologique. Personne ne pense que c'est une nature biologique, donc ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne crois pas que... Enfin, les théories, enfin, on pense à Platon ou Cratyle, etc. Enfin, je ne pense pas que l'idée qu'il y aurait une sorte de vérité des mots derrière les mots, je ne crois pas qu'elle soit si répandue que ça aujourd'hui dans notre société, y compris par le fait qu'il y ait une circulation des langues, etc. Donc je ne crois pas que ce soit décisif. Je pense qu'en fait, ce qu'on apprend à travers le langage, c'est plutôt, encore une fois, qu'il y a un côté artificiel, conventionnel. La difficulté, enfin, je réitère ce que je disais tout à l'heure, mais la difficulté qu'il y a à apprendre les règles de grammaire et à les appliquer, le fait qu'on est obligé de se relire parce qu'on ne se souvient pas, parce que si, par exemple, on dit « machin » et « machine », eh ben, il faudra quand même accorder ensuite au masculin. Eh ben, ça demande une gymnastique intellectuelle qui est tout sauf naturelle. La preuve, tout le monde fait des fautes. L'accord du participe passé du verbe avoir, du participe passé avec l'auxiliaire avoir, est quand même une des grandes difficultés de la langue française, sans même parler des verbes pronominaux. Il me semble que le fait qu'on ait du mal, qu'on soit obligé de vérifier, de se relire, de se etc., ça montre bien que personne ne peut avoir l'illusion que c'est très naturel. Que vraiment, pour arriver à accorder au masculin ou au féminin au bon moment, il faut se battre. Enfin, il me semble. Donc, enfin bon, on pourrait en discuter davantage, mais je ne crois pas que ce soit décisif. Je ne pense pas que ce soit un effet de la langue. Deuxièmement, sur la théologie, on peut dire, enfin la théologie politique de tout ça, moi je suis entièrement d'accord. Je n'ai pas voulu me lancer là-dedans parce que c'est un de mes dadas, puisque je m'intéresse beaucoup, enfin je suis un lecteur assidu des textes produits par le Vatican sur ces questions, et j'interviens dans des contextes, y compris catholiques, etc. Alors je dirais que. En fait, il ne s'agit pas seulement de la Genèse, etc. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement donc, de cet imaginaire, enfin, de cette anthropologie, le terme qui est revendiqué par l'Église catholique. Il s'agit, à mon sens, du statut même des Églises. J'essaie depuis quelques années de développer un concept que j'ai baptisé « démocratie sexuelle ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui m'intéresse, c'est le fait que nous vivons dans des sociétés qui revendiquent de définir elles-mêmes les règles du jeu, les lois, les normes, les règles. Ça veut dire quoi, les définir elles-mêmes ? Ça veut dire que c'est nous qui définissons le monde dans lequel nous vivons de manière immanente et non pas une puissance supérieure qui serait Dieu ou la tradition ou la nature, c'est-à-dire donc de manière transcendante. Donc je crois que l'enjeu, c'est entre une définition immanente de la société, que j'appellerais démocratique, c'est-à-dire c'est nous qui définissons le monde dans lequel nous vivons, par opposition à une définition transcendante, ça nous est déjà donné a priori. Bon. Je crois que la raison pour laquelle les questions sexuelles sont devenues des enjeux importants pour les religions, et pas simplement pour l'Église catholique ou pour le christianisme, etc., c'est parce que ça pose la question de savoir s'il y a un fondement transcendant aux normes du monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, qui définit les règles du jeu ? On sait bien qu'en démocratie, on peut décider d'augmenter les impôts ou de faire baisser le taux du livret A ou je sais pas quoi. Enfin, tout ça, on sait, bah oui, ça c'est de la politique, c'est normal, c'est nous qui décidons. Quitte ensuite à se sentir dépossédé de cette décision par... etc. Mais ça veut dire qu'on présume que normalement, c'est à nous de le faire. Même quand on se plaint du fait que nos élites nous gouvernent contre notre gré, etc., ça veut dire que normalement, ce serait à moi et à nous de... etc. Bon. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des limites à cette logique démocratique ? C'est-à-dire, est-ce que tout est défini par nous ? Ou est-ce qu'il y a un point d'arrêt ? Et qu'on dit, au-delà de ça, non. Et c'est ça la bataille autour des questions sexuelles, me semble-t-il, aujourd'hui. C'est est-ce qu'il y a des choses qui échappent à cette définition par nous, à cette définition immanente ? C'est-à-dire, en particulier, est-ce qu'il y a des choses qui sont en dehors de l'histoire ? Puisque si elles ne sont pas définies par nous, et si elles nous sont données une fois pour toutes, elles sont en dehors de l'histoire. Et c'est là qu'on voit arriver la nature, et c'est là qu'on voit arriver le corps, c'est là qu'on voit arriver le sexe, c'est là qu'on voit arriver le mariage, etc. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des limites à la logique démocratique de définition immanente ou pas ? Ou est-ce qu'on est dans une extension indéfinie de la logique démocratique ? Je crois que ça explique beaucoup des batailles d'aujourd'hui. Ce sont deux conceptions, non pas seulement du sexe, mais des normes de qui a le droit de dire ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme, etc. Est-ce qu'on a le droit de changer la définition ? Est-ce qu'on a le droit de changer la définition du mariage, de la famille, etc. Alors, bien entendu, l'inquiétude conservatrice exprimée, c'est toujours que si on commence à dire c'est nous qui définissons, ça veut dire qu'on a changé la règle du jeu, mais que si on l'a changé comme ça, demain, elle pourrait changer encore, et que ça veut dire que tout est permis. Si Dieu est mort, tout est permis. C'est un peu ça l'inquiétude récurrente. Autrement dit, si... on a le droit de dire que deux hommes peuvent se marier, pourquoi pas demain la pédophilie ? C'est ce qu'on entend constamment. Ça, il me semble que c'est fondé sur l'idée que un changement de normes, c'est la fin des normes. Il me semble qu'il faut renverser la perspective. C'est la fin d'un monde et non pas la fin du monde. Parce que s'il y a une chose que nous apprennent les sciences sociales, c'est qu'il y a toujours des normes. La question, c'est lesquelles ? Donc, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout soit libre. Pour prendre un exemple, et y compris dans un sens positif, enfin, pas simplement pour déplorer qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, etc., mais des normes que beaucoup d'entre nous revendiqueraient aujourd'hui, je crois, c'est le fait que le viol, par exemple, apparaît beaucoup moins légitime, acceptable, etc., que, disons, qu'il y a un siècle, pour dire comme ça à la louche. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de viol, hein, bien sûr, mais la norme de réprobation sociale est beaucoup plus forte. L'idée que, par exemple, une femme qui va à la police pour déclarer qu'elle a subi un viol, les policiers sont censés bien se comporter, l'accueillir, non pas comme on le faisait avant, mais en ayant plus d'égards, etc. C'est pas toujours le cas, mais c'est une norme qui, aujourd'hui, est présente, l'idée qu'on est censé prendre au sérieux ces questions-là. Ça veut bien dire que là, il y a une norme qui est plus exigeante, plus contraignante. Deuxième exemple, celui de la pédophilie, précisément. La désapprobation sociale pour la pédophilie est beaucoup plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était hier, comme le sait bien justement l'Église catholique. Donc, manifestement, les normes ont changé là-dessus. L'acceptabilité de certaines pratiques a varié. Et ce n'est pas seulement dans le sens d'être plus tolérant, comme c'est le cas effectivement par rapport à l'homosexualité et par rapport à la reconnaissance des couples de même sexe, etc., mais aussi dans le sens d'être moins tolérant. Simplement, on ne dira pas tolérant parce qu'on a envie justement de trouver que c'est pas bien, mais par rapport à la pédophilie ou au viol. Donc en fait, ce ne sont plus les mêmes normes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de normes. Il y a certaines choses qui nous paraissaient inacceptables et qui nous sont devenues relativement normales. Il y a certaines choses qui étaient relativement banales et qui sont devenues intolérables. On voit bien, par exemple, la question de l'âge des rapports sexuels. C'est quelque chose qui varie, y compris l'âge légal. La majorité sexuelle, ce n'est pas une donnée constante. Donc je crois que l'enjeu, effectivement, est très grand sur toutes ces questions, parce que l'inquiétude conservatrice, c'est l'idée que si on peut changer les normes, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de normes. Mais je crois que ça n'est pas ce qui est en train de se passer. Je promets que si d'autres questions sont posées, je ne prendrai pas 25 minutes pour répondre.
Ya Ibrahima. Moi, je voudrais commencer par relever le fait que la fluctuation des normes, et dès l'instant que ça impacte la vie d'autrui, parce qu'on est dans une mutualisation aussi bien des intérêts, du fait simplement de vivre en collectivité, fait que c'est normal que ça inquiète. La preuve, la définition de la mort elle-même varie. Il y a un moment, c'était l'électroencéphalogramme plat, on en revient à l'électrocardiogramme plat, qui fait que c'est... Le législateur lui-même qui, à un moment donné, détermine quand est-ce qu'on peut déclarer quelqu'un mort ou voilà. Et du coup, est-ce parce que tout part, à mon avis, en fait, de l'individu. Est-ce que dans une société où les intérêts sont mutualisés, on peut laisser un primat à l'individu pour qu'il détermine et donner une orientation à un mode de vie qui impacte sur la prise en charge ou un mode de vie qui est pris en charge par la collectivité. Voilà.
Mais je suis tout à fait d'accord d'abord sur le fait qu'effectivement, c'est le législateur qui détermine la limite de la mort, en gros. De même que c'est le législateur qui détermine la limite de la vie. Par exemple, en autorisant ou en interdisant l'avortement à tel ou tel moment, etc. C'est très clairement une intervention sur des choses fondamentales. C'est la société qui décide ces choses pourtant si fondamentales, la vie, la mort, etc. Quant à l'individu et à l'individualisme, ça renvoie un petit peu à ce que j'essayais de dire juste avant. Ça n'est pas la disparition des normes, c'est le changement des normes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, avec le débat sur, avec le débat puis la loi du mariage pour tous. On ne dit pas chacun va décider individuellement. C'est le législateur qui change la définition à l'issue de débats qui ont duré une quinzaine d'années. Il est tout à fait normal, comme vous le disiez, qu'il y ait des gens à qui ça ne plaise pas. En démocratie, justement, parce que ce sont des choix politiques. Il est tout à fait... moi, il y a beaucoup de choses qui me déplaisent dans la société. Il se trouve que celle-ci n'en fait pas partie. Mais dans les choix politiques qui sont opérés aujourd'hui, la plupart me déplaisent. Mais néanmoins, je vis dans cette société. Je ne vais pas simplement dire que c'est l'individualisme lorsque ça ne m'arrange pas. Donc, en fait, je crois que ce sont des choix sociaux. Donc, la question est de savoir où l'État juge nécessaire d'imposer quelles règles. Donc, par exemple, l'État est devenu, je le disais, plus contraignant en matière de violence sexuelle. Il s'en mêle davantage. Par exemple, il y a une loi sur le harcèlement sexuel, ce qui n'a pas toujours été le cas. Les lois sur le viol se sont transformées, mais aussi les pénalités, etc. Bon, ça pourrait changer dans un autre sens, mais ce sont les interventions de l'État. Donc ce n'est pas de l'individualisme. La question, c'est où est-ce qu'on veut que l'État intervienne pour dire quoi? Donc par exemple, est-ce qu'il nous est utile, est-ce qu'il nous paraît souhaitable que l'État intervienne pour instituer la différence des sexes? Qu'est-ce qui se passe en France en particulier, mais pas seulement en France? C'est que beaucoup des distinctions établies par le droit en matière de sexe ont été effacées. L'idée qu'il y aurait des droits différents pour les femmes et les hommes paraît de plus en plus difficile à maintenir, sauf dans des cas particuliers comme par exemple la grossesse. Ce qui n'est pas sans importance, bien sûr, mais en tout cas, il y a un effort du législateur pour dire on ne va pas traiter différemment les femmes et les hommes. Par exemple, il est illégal d'interdire des métiers à des femmes. Donc ça veut dire que l'État dit j'interviens non pas pour dire les femmes doivent faire ceci, les hommes doivent faire cela, mais pour dire vous n'avez pas le droit de réserver certaines choses à des femmes et d'autres à des hommes. Donc l'État intervient, mais il intervient non pas pour instituer la différence des sexes, mais pour dire on ne doit pas discriminer, ce qui est une logique en quelque sorte inverse. Donc dans le prolongement de cela, c'est ce qui vient de se passer avec le mariage, avec l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. C'est que l'État a décidé, en France comme dans certains autres pays, qu'il n'éprouvait plus le besoin d'instituer la différence des sexes à travers le mariage. Si vous lisez Herculine Barbin, le récit du XIXe siècle repris par Michel Foucault, ça a été publié par Ambroise Tardieu, un médecin qui a joué un rôle très important dans la construction d'un discours scientifique homophobe, une dénonciation virulente de l'homosexualité au XIXe siècle. Et par ailleurs, il a un regard très bienveillant sur Herculine Barbin, devenue Abel Barbin, en considérant que là, il n'y a pas de problème, c'est très bien, elle a changé de sexe. Pourquoi? Parce que si elle a changé de sexe, eh bien, ça évite toute ambiguïté, ça évite en particulier l'homosexualité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a publié le récit d'Herculine Barbin dans un volume où il explique les dangers de se tromper sur le sexe des gens. Et quel est le premier danger pour lui de se tromper sur le sexe des gens? C'est qu'on risque d'avoir des gens qui vont se marier avec quelqu'un du même sexe alors qu'ils croient être du sexe différent. Bon. Vous voyez bien que si l'État commence à se dire « finalement, ce n'est pas mon problème », ce qui vient de se passer en France comme ça s'est passé dans d'autres pays, eh bien ça veut dire que cette question-là change complètement. Donc à quel point est-il absolument nécessaire de savoir quel est le vrai sexe d'Herculine Barbin? C'est important pour elle ou pour lui, bien sûr. Mais enfin, est-ce que pour l'État, c'est si important que ça? À quoi sert aujourd'hui la catégorie de sexe à l'État? Moi, j'y vois une utilité positive aujourd'hui, mais qui ne nécessite pas d'en faire une catégorie d'État civil, c'est que ça permet de mesurer les discriminations entre les hommes et les femmes. Par exemple, le fait que les femmes sont moins payées que les hommes. C'est relativement utile. Mais par exemple, on voit bien qu'aujourd'hui, l'État français ne veut pas du tout reconnaître comme une catégorie pertinente la race. Pourtant, ça permettrait de mesurer les discriminations raciales. Mais d'un côté, l'État français dit « je veux bien instituer le sexe », mais de l'autre, « je ne veux pas instituer la race ». Alors vous me direz, la race n'existe pas. Oui, mais on a vu que le sexe, c'était aussi une construction sociale, comme la race. Bien sûr que ça n'existe pas comme des vérités absolues, mais ce sont des constructions sociales. Donc la question, c'est pourquoi faire? Donc je crois que la question qu'on doit se poser, c'est non pas est-ce que le sexe est une vérité intangible? Manifestement, ça ne l'est pas. Mais est-ce que nous trouvons utile de garder cette catégorie? Et pourquoi faire? Et à quel endroit? Pour quels usages? Etc. Donc je ne crois pas que ce soit une question d'individualisme. C'est une question de normes, simplement. Est-ce qu'il est besoin d'instituer par la loi la différence des sexes? Et pourquoi faire?
Tout d'abord, merci d'être là et nous éclairer dans ce débat complexe. Et je ne sais pas, je voudrais poser une question, mais je suis un peu hésitant sur la légitimité.
Toutes les questions sont légitimes.
Voilà. Et c'est une interrogation. C'est une interrogation sur la question de genre, évidemment. Et je peux peut-être commencer par quelqu'un que je ne sais pas si vous avez connu ou non, Michel Kluskar, qui était ici professeur de sociologie. Pour vous situer, c'est qu'elle a écrit « Le capitalisme de la séduction ». Donc, voilà, grosso modo, cette théorie démontre que comment la bourgeoisie a pu récupérer ce mouvement vers la liberté qui était en 68. Et pour perpétuer un système, et que un peu pour utiliser un concept, que nous avons utilisé le concept de patriarcat et la question de la domination. Aujourd'hui, il y a quelque chose que je m'interroge. En fait, je regarde sur les questions de... Je ne dirais pas débat sur la question de genre et vraiment l'intérêt qu'on peut apporter dans l'éclairage, comme Judith Butler, des choses comme ça. Mais en marge, il y a quelque chose dans la société française aujourd'hui, un usage très négatif politiquement. Et c'est dans le sens de dire que nous allons vers le progrès. Quelque part, oui, pour moi, liberté sexuelle, que les homosexuels ne soient pas opprimés, qu'il y a certaines choses, très très bien. Mais comme si on va vers une sorte de progrès, et bien une espèce de relecture de l'histoire. Hein, vous voyez, ça pourrait être très dangereux. Par exemple, je vais donner juste un exemple, je m'arrête. Par exemple, Gandhi, hein, pour tout le monde, symbole de pacifisme, quelque chose comme ça, et qui effectivement apportait beaucoup à l'humanité. Mais à un moment, par exemple, dans le texte, Gandhi, il traite des efféminés, des pédérastes, ceux qui n'ont pas le courage de se battre. Vous voyez ? Et où est-ce qu'aujourd'hui, alors ça, cette question, voilà, je reviens à mon interrogation, ce débat-là, pour moi, est-ce que ça ne va pas éviter de poser des questions qui est sur la question, par exemple, d'égalité des sexes, par exemple, qui peut apparaître dans la rémunération, dans des questions politiques, des choix politiques. Et il y a quelque chose, il y a une inquiétude. Je n'ai pas pu formuler bien, mais bon, voilà,
je pense que c'est une question importante. C'est quand on parle de genre, est-ce que ça empêche de parler d'autre chose ? Ce que j'ai essayé de suggérer, c'est que le genre, ça sert à parler de toutes sortes de choses. Je prendrai un exemple. Lorsqu'il y a eu le débat sur la parité, un certain nombre de gens, y compris au sein du féminisme, au-delà des débats théoriques, etc., mais trouvaient que, bon, c'est bien beau, mais après tout, le nombre de femmes en politique, c'est important, mais il y a quand même beaucoup d'autres problèmes, y compris pour les femmes, qui peuvent être également importants. Donc, est-ce que parler de la parité ne distrayait pas d'autres enjeux non moins importants, voire beaucoup plus importants, tels que les inégalités économiques entre les hommes et les femmes, etc., etc. Bon. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à parler de la parité, ça a rouvert, comme le disait Alain Finkielkraut négativement, une boîte de Pandore, que donc je prendrai positivement, donc il faut réhabiliter Pandore, c'est-à-dire qu'on s'est mis à parler de tas d'autres problèmes, y compris les inégalités de salaire. Donc je crois que ce sont des entrées politiques. Alors après, sur l'autre... Donc je ne crois pas que ça empêche... Ça peut empêcher, bien sûr. Ça peut distraire. Mais pas forcément. Ça dépend de ce qu'on va en faire. Tout est dans les usages qu'on en fait. Donc je crois qu'il est important, effectivement, de ne pas isoler, par exemple, les questions de troubles identitaires, etc., mais de montrer comment ça peut jouer dans les rapports entre les classes, c'est ce que j'ai essayé de suggérer, etc., etc. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il est important de voir combien le genre fonctionne aujourd'hui. Je vais prendre un exemple très rapidement. Moi, j'ai été très frappé début 2014, lorsque le président de la République, après la séquence, comme on dit médiatiquement, mariage pour tous, etc., a dit « Bon, allez, maintenant, fini de rire, on s'occupe des choses sérieuses, le pacte de responsabilité. La responsabilité, ça, c'est vraiment un truc d'homme. Bon. Et on laisse cette loi sur la famille qui, quand même... Nous l'avons tous bien compris, et une histoire de bonne femme. Donc il me semble que là, on voit comment ça fonctionne le genre. on nous a dit il y a des choses sérieuses et il y a des choses qui ne sont pas. Et les choses sérieuses, bah, c'est les choses... Et regardez tout simplement quels sont les ministres qui s'occupent d'économie. Ce sont les hommes. Quels sont les ministres qui s'occupent de la famille, de l'égalité entre les sexes, etc. Bah, c'est les femmes. Donc les affaires sociales, vous mettez Marisol Touraine, vous mettez Najat Vallaud-Belkacem, vous mettez... etc., etc. Donc en fait, si vous voulez faire une lecture genrée du gouvernement, c'est assez vite fait. Il n'y a pas besoin d'être un grand sociologue. Je pense que tout le monde l'a très bien compris. Il y a d'un côté les histoires de bonnes femmes et de l'autre les histoires sérieuses. Bon, ben, je pense que politiquement, avoir l'outil du genre pour essayer de formuler ça, ça peut aider un petit peu pour ne pas laisser l'idée que le pacte de responsabilité, par exemple, c'est ça le vrai sérieux masculin, si vous voyez ce que je veux dire. Et dernière remarque sur le progrès et le risque d'une vision progressiste, etc. Bon. Je suis bien d'accord, et pour ma part, enfin, j'ai beaucoup, enfin, je ne l'ai pas développé ici parce qu'on ne peut pas tout dire, mais j'ai passé beaucoup de temps à critiquer cela, et en particulier dans les années 2000, où ce qui nous a été présenté, c'est l'idée que la démocratie sexuelle, justement, même si les gens n'utilisent pas le terme, c'est le progrès, autrement dit, c'est nous. Et que donc, l'archaïsme, c'est eux. Et elles. Et ça a joué en particulier dans les rapports Nord-Sud, ça a joué en particulier en matière de politique d'immigration, etc., etc. Donc pour ma part, j'ai passé beaucoup de temps, d'énergie, des colloques, des publications, des interventions dans la presse, etc., enfin voilà ce que je sais faire, quoi, pour essayer de mettre en garde contre une instrumentalisation de la démocratie sexuelle à des fins racistes et xénophobes. Précisément parce que effectivement, lorsqu'on est en train d'essayer de faire bouger les choses, il est, me semble-t-il, inévitable ou presque qu'on s'appuie sur quelque chose comme une représentation sur laquelle ce serait mieux. C'est-à-dire si on défend une idée, on va dire ce serait mieux. Autrement dit, entre dire ce serait mieux et ce serait un progrès, la différence est minime. Mais effectivement, la logique du progrès, elle a toute une histoire qui est liée à l'Occident, etc., et sur laquelle il faut être vigilant. Y compris parce que ça a des effets pervers, c'est-à-dire lorsqu'on dit qu'on va les civiliser sexuellement les jeunes des banlieues ou les Africains ou les musulmans ou que sais-je encore, ben, évidemment, les personnes visées, ça ne les incite guère à se reconnaître dans les valeurs de démocratie sexuelle. Parce que les gens ne sont pas plus bêtes que les uns que les autres. Ils ont tous très bien compris à quoi ça servait. Donc je pense qu'il est très important de prendre en compte tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'il peut y avoir des instrumentalisations racistes et xénophobes, pour le dire très clairement, ou impérialistes, ou etc., que pour autant on va dire « bon, bah donc ne parlons plus de liberté, ne parlons plus d'égalité en matière de genre et de sexualité ». Je crois que la difficulté, c'est d'arriver à ne pas abandonner des valeurs auxquelles on croit, mais à ne pas les laisser instrumentaliser pour autant. Donc ça demande, entre autres, d'expliciter le fait que, certes, on peut défendre certaines valeurs, mais voir qu'elles peuvent être utilisées, etc., y compris, encore une fois, dans les politiques d'immigration. Lorsque, en 2007, Nicolas Sarkozy lance l'idée du ministère de l'immigration et de l'identité nationale pendant la campagne électorale, ce qui lui permettra de rallier les suffrages du Front national et ainsi d'être élu, qu'est-ce qu'il dit dans ses spots de campagne à la télévision? Il explique, ah bah oui, l'identité nationale, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la race ou avec l'ethnicité, ou etc. Pas du tout, c'est les valeurs républicaines. Alors on se dit, c'est formidable. Si la France est l'incarnation des valeurs républicaines, quel bonheur! Et quelle est la seule valeur républicaine qu'il évoque dans ce spot de campagne? C'est le fait qu'en France, les femmes sont libres. Alors, je laisse de côté, là aussi, l'élément empirique de savoir à quel point c'est vrai ou pas vrai, etc. Mais ce qui est très bien montré dans ce petit clip vidéo, c'est une manière de dire « chez les autres, non ». Autrement dit, c'est pour ça qu'il faut opposer l'immigration à l'identité nationale. C'est parce que chez nous, les femmes sont libres et chez eux, non. Bon. Donc quand on voit ça, il me semble que non seulement, pour le dire clairement, c'est xénophobe et raciste, mais en plus que c'est contre-productif, c'est-à-dire que ça va convaincre des tas de gens que liberté des femmes veut dire xénophobie et racisme. Donc je crois qu'il est très important de le dire pour essayer de dissocier les deux termes. Donc je prends tout à fait au sérieux ce que vous disiez, mais je pense que ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de parler de genre. Ça veut dire qu'on doit essayer de se rappeler que le genre, ça parle aussi d'autre chose que du genre. C'est ce que, en m'appuyant sur John Scott, j'ai essayé de souligner.
Non, on ne va pas arrêter. On est vraiment désolé d'arrêter.
Non,
c'était formidable. Et j'espère que vous reviendrez chez nous, parce que c'est un plaisir de vous accueillir. Merci, Monsieur Fassin.
Merci.